On va déguster tous les dimanches sur France Inter à partir de 11h.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
Il faut faire ensemble. Et faire ensemble, c'est déjà s'attabler ensemble à une table, c'est faire ensemble de la soupe.
J'ai pas faim.
Mais moi non plus, j'ai pas faim. En voilà une excuse.
C'est dire aux gens, retrouvez-vous, faut pas avoir peur d'être dehors ensemble.
Tiens, essaye les trucs salés, ça passe tout seul. Ça donne soif.
Vu que les Auvergnats aiment bien manger un petit peu de fromage et de pommes de terre, de toute façon, tant qu'il y a ça chez nous, on mange tout. Hein.
Quand on mange sain, sans produits chimiques, il n'y a jamais de contre-indication.
Quel festin de roi.
Étonnant, non?
Salut à toutes et tous, bonjour Clermont-Ferrand. Mais alors, il y a une ambiance de dingue. On va déguster Bresse-le-Couvert dans la capitale de l'Auvergne. Nous sommes très heureux de participer en ce dimanche et en direct à un événement très spécial. Nous sommes au cœur du Jardin Lecoq, où se déroule toute la journée la toute première édition de l'étonnant festin. Imaginez, chers auditeurs, un grand banquet dominical qui met à la fête la cuisine populaire, la cuisine du quotidien que l'on mange à Clermont-Ferrand. Il y a environ 65 stands de restauration, des chefs étoilés, mais surtout des cuisiniers de bistrot, des cuisiniers amateurs, des artisans, des paysans, des artistes, des musiciens, des associations. On va se régaler. Et celui qui a eu cette bonne idée, qui nous a appelé pour nous dire « Vous allez, les Parisiens de France Inter, vous venez à Clermont-Ferrand, vous verrez, c'est un peu loin, mais c'est super chouette. Vous allez vous régaler, plus on est de fous, plus on a faim. » C'est Éric Roux, bonjour.
Salut à tous.
Cher Éric, vous êtes à l'initiative, évidemment, de ce bel événement, hein, avec l'association Effervescence, avec la mairie de Clermont-Ferrand, la métropole Clermont-Auvergne, hein, c'est bien ça?
Ouais, mais c'est aussi eux en fait, c'est tous les Clermontois, parce qu'en fait cette histoire c'est pas une histoire de on va plaquer quelque chose, c'est ce qu'on vit tous les jours. Et le but du jeu c'était de donner, alors ça fait un peu bateau, c'est donner à goûter ce paysage, mais parce que ce paysage est vivant, qu'il est bien plus divers que l'on veut bien l'imaginer souvent. Il n'y a pas que la truffade en Auvergne, il y a plein d'autres trucs, et c'est en fait tisser cette histoire où nous imaginons comment nous nous voulons vivre dans ce jardin avec des arbres centenaires, le jardin Lecoq, qui est vraiment un truc que moi ça m'épate à chaque fois.
On va en parler ensemble et on va même découvrir un profil alimentaire tout à fait étonnant. Et en tant que journaliste, documentariste, ancien ethnologue, créateur de l'Observatoire des cuisines populaires, vous allez justement nous raconter des choses assez insoupçonnées qui mijotent dans les marmites clermontoises. Avec nous également deux talents de la ville, deux talents de Clermont-Ferrand qui mettent aujourd'hui d'ailleurs la main à la pâte dans cette très belle manifestation, cet étonnant festin. D'abord la fondatrice éco-gérante avec Maxime Fritzen, c'est son associé. Ils ont créé ensemble les marchés de Max et Lucie, une boutique située avenue Charras, c'est bien ça?
Exactement.
Quartier de la gare?
Tout à fait.
Vous avez pour ambition, on va le voir, on va le découvrir avec tout ce que vous nous avez apporté à goûter, de valoriser les produits auvergnats dans l'idée évidemment. Enfin, je dis évidemment, ça fait partie des valeurs de l'émission dans l'idée d'une agriculture vertueuse. C'est Lucie Vaurillon, bonjour.
Bonjour.
Et puis notre troisième invité, c'est celui qui fait monter la cote gastronomique de Clermont-Ferrand, je n'hésite pas à le dire, ces dernières années, avec son formidable bistrot, le Saint-Eutrope. Il est anglais, c'est le sorcier d'une belle cuisine du quotidien. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'Éric Roux le surnomme Harry Potter. C'est Harry Lester, bonjour.
Bonjour. Merci, bonjour.
Good trip ou bad trip avec vous tout à l'heure?
J'étais un peu à la bord, mais j'étais arrivé.
Good trip, vous allez voir et vous allez comprendre dans un instant. Ils font partie de la bande dont on va déguster. Ils font le voyage avec moi à Clermont-Ferrand et j'en suis très heureux. Estherelle Payani et Dominique Hutin, bonjour à tous les deux.
Bonjour, bonjour les amis.
Estherelle.
Aujourd'hui, je vais vous parler de la plus connue des cuisinières auvergnates, qui n'est peut-être pas celle que vous croyez.
Alors, on lance une petite énigme, évidemment, on ne donne pas la solution des jeux, mais quand arrivera la chronique d'Estherelle, on lèvera la main, on vous tend le micro, et évidemment, vous nous trouvez cette héroïne de la cuisine auvergnate. Je pense que ça ne fait pas trop de difficultés dans le public. Dominique,
Oui, fermez les volets, rentrez les plus jeunes, calfeutrez ce qui peut l'être, il va pleuvoir du vin d'Auvergne. Et quelque chose me dit que ça va être un petit peu plus rock'n'roll que la bourrée auvergnate.
Vin d'Auvergne dans l'Auvergne, grâce à Dominique Hutin. Retrouvez les recettes de nos invités, toutes les références des infos qu'on évoque, de nombreuses adresses gourmandes à Clermont-Ferrand, le podcast également de l'émission, sur franceinter.fr à la page On va déguster. On croque Clermont-Ferrand à pleines dents.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Il y a du monde, il n'y a pas encore la pluie au cœur du jardin Lecoq. Ça va, Éric Roux, pas trop stressé, le grand ordonnateur avec la mairie, tous les bénévoles évidemment, ouais, et le public tout, de cet événement.
Tous les bénévoles, vous faites bien, j'allais te tutoyer.
Mais tu peux, allez, allons-y.
Tous les bénévoles parce que c'est une histoire qui a impliqué, cette histoire d'effervescence et de tout ce que l'on fabrique, c'est impliquer les commerçants, impliquer les producteurs, les cuisiniers. Ben, ça, c'est des choses qui arrivent.
Il pleut bel et bien du vin d'Auvergne. Hein. Il y a un verre de rouge, ça y est, qui vient de s'éclater sur le plateau.
Plus de gamay.
Effectivement. C'est bénévole. Moi, je suis épaté parce que on dit ça ouvre à 10h. Il y a un truc qui est très chouette chez les Clermontois et les Auvergnats. Tu dis 10h, tout le monde est là à 10h et tout le monde rentre et tout le monde commence à se balader. Tout à l'heure, j'étais devant le stand de monsieur et madame Vang qui sont deux Laotiens qui cultivent des légumes à Clermont. Il y avait, mais sans mentir, il y avait 40 personnes qui faisaient la queue pour acheter de la ciboule, du chou chinois, etc. Et là, je dis. C'est presque gagné.
Alors, avant de venir précisément au contenu de tout ce qu'on peut manger, on va se rendre compte qu'il y a une incroyable diversité aujourd'hui sur les stands de restauration. Joue un peu les GPS, Éric Roux, Jardin Lecoq, pour ceux qui connaissent mal Clermont-Ferrand ou qui n'y sont jamais venus.
Clermont-Ferrand, Clermont-d'Auvergne, il y a deux villes, Clermont et Montferrand, qui sont associées déjà depuis un petit bout de temps. C'est deux petites collines où chaque fois on met une église, parce qu'on trouve ça chouette dans la région, au sommet de la colline. Clermont, c'est la grosse ville, c'est le centre, le plateau central où les bourgeois habitent, mais aussi il y a pas mal de bistrots, de trucs qui se passent. Et là, on est au pied en fait de cette butte sur un vieux jardin qui a vraiment plus de 100 ans. On a beaucoup essayé de discuter avec les jardiniers qu'entretiennent au jour le jour ce jardin en disant on va essayer de faire le maximum pour pas abîmer les vieux arbres. Il y en a un que je connais qui est un vieil érable de Montpellier parce que en fait clairement il y a un côté un peu méridional, il y a un érable de Montpellier que je caresse à chaque fois je passe à côté. Celui-là, je fais gaffe que personne ne l'embête. Parce que c'est vraiment... Tous les petits Clermontois sont venus se balader dans ce jardin Lecoq. Et s'installer là pour la première édition de l'Étonnant Festin, c'était à mon avis totalement logique.
Un poumon de 5 hectares au centre de Clermont-Ferrand. Et comme tu le dis, Éric, ce jardin est aujourd'hui une marmite géante où mijote des choses bien singulières. Alors évidemment, Clermont-Ferrand, capitale de l'Auvergne, on sait à quel point les traditions culinaires de l'Auvergne sont enracinées ici. On peut parler poté, tripou, quantité de spécialités locales. Ce qui est intéressant, c'est que votre événement est la vitrine d'un profil alimentaire tout à fait particulier. Le résultat aussi d'une sociologie, d'une démographie tout à fait particulière à Clermont-Ferrand.
Pour une raison très simple, en fait, j'écoute les chefs hein, quand ils parlent de la cuisine populaire, ils font toujours référence à une espèce de cuisine rêvée d'avant. La cuisine populaire, c'est tout de suite, c'est maintenant qu'elle se passe. On est dans un mouvement, ce que l'on mange aujourd'hui, c'est pas ce que l'on mangera demain. Et à Clermont, parce qu'il y a toujours... Il faut quand même signaler que Clermont est le siège de la seule entreprise du CAC 40 qui n'est pas à Paris. C'est à Clermont, vous la connaissez.
Tu peux la citer ?
On peut la citer.
Bien sûr.
C'est Michelin. Mm-hmm. Et Michelin a encore des usines. Il y a d'autres entreprises qui ont des usines. Donc, il y a des prolos encore à Clermont. Mais il y a aussi des bourgeois. Et il y a des trentenaires, comme Lucie, qui essayent de dynamiser tout ça. Il y a, si je ne me trompe pas, 40 000 étudiants qui se baladent ici, dont 5 000 qui viennent du monde entier. Donc, tu as une sorte de creuset populaire au sens noble du terme, dans ce sens de l'invention permanente, du non-verbalisé mais existant au jour le jour. Et cet étonnant festin, ça raconte cette histoire. Ça raconte l'histoire de la communauté portugaise qui ont été les premiers à reprendre les villages vignerons et à relancer les vignes dans tous les petits villages autour de Clermont. C'est la communauté turque qui a travaillé dans les bois, qui a travaillé dans la coutellerie tiernoise et qui est aussi présente ici. C'est, alors, ils sont marrants parce qu'ils se disent « nous, on est des Yougoslaves ». En fait, c'est tous les peuples de l'ex-Yougoslavie qui sont présents et qui composent. Je vais te raconter une histoire. En octobre, il y a dans les jardins de la plaine un gros poivron qui est cultivé. Et tous les gens des Balkans, ils font des barbecues, ils font griller ces gros poivrons et ils vont les réduire en purée pour les faire cuire. Et ça fait de l'aïvar. Et mon idée, c'est qu'en fait, l'aïvar, en fait, aujourd'hui...
On a la spécialiste de l'aïvar.
On en a fait une recette, Estelle.
Et en fait, c'est ça, clairement.
Cette espèce de compoté de poivron, ouais. En fait.
Tu vois, c'est ça, clairement. Mmh. C'est l'Aïvar clermontois. Parce que moi, je suis persuadé qu'il y a un truc qui est essentiel. La cuisine, c'est pas du droit du sang. C'est effectivement du droit du sol. C'est ici qu'on invente un monde et qu'on invente un monde qui se construit.
Claire Monferrand, formidable terre d'accueil pour des cuisines qui viennent parfois de très loin. Tu m'as fait la promesse qu'on pouvait goûter ici même. Pour l'instant, je vois pas grand-chose venir.
Mais ça va arriver.
Mais
ça va arriver.
On peut manger levantin, portugais, cambodgien, maghrébin.
Tu peux te balader complètement. Alors, j'hésite toujours à dire, tu peux te balader dans le monde à Clermont-Ferrand. Parce que c'est mon imaginaire de Clermont-Ferrand. Donc, tu peux te balader à Clermont-Ferrand en picorant du feu, en allant goûter des falafels. Juni et Ibrahim, qui sont sur l'étonnant festin, normalement, ils doivent envoyer des falafels. Ça commence à arriver.
Il suffisait de dire et ça y est, ça débarque.
Ils ont fait des falafels. Alors, leurs falafels, tu sais, s'il y a un truc à faire peut-être, c'est leur dire, les gars, peut-être qu'il y a un producteur qui peut produire des pois chiches ici plutôt que les acheter ailleurs. Et il y a une histoire à raconter dans cette installation de production enracinée dans ce territoire. C'est une vision très dynamique. Et ce que j'espère, alors Harry est un moteur pour ça, c'est que les chefs aillent piocher en fait dans cette diversité pour se dire, mais en fait, la cuisine auvergnate, c'est certes la truffade, c'est certes la saucisse au chou, certes le fin gras du Meusin, mais c'est aussi tout le reste.
Eh bien justement, et on en a la preuve sur ce plateau qui vient d'atterrir comme par miracle, grâce à Harry Lester, qui est à Clermont-Ferrand depuis 2014, c'est bien cela ?
2013.
Vous êtes au fourneau du Saint-Eutrope.
Oui, exactement. Déménagé en France 2007.
C'est ça.
En Haute-Loire.
Oui.
Et les tripes, c'est grâce à Chassignol où j'ai vécu. Ça, c'est les agriculteurs du coin m'ont demandé de cuisiner les tripes un dimanche matin.
Oui.
On mange à 8 heures normalement, on est un peu en retard. Voilà, comme ça.
Alors, c'est Lucie qui est en train de s'y essayer, ces tripes. Un petit commentaire, Lucie, vous n'avez pas peur, visiblement, pas froid aux yeux, hein. Palais sensible, s'abstenir. Moi, j'adore les tripes aussi. Alors,
j'avoue que j'ai plus l'habitude du légume, mais allez, c'est parti.
Allez, go. On attend avec impatience votre réaction.
Il faut
va nous
inventer
dire
la beurre. Tripe vegan, donc, urgemment.
Ah ouais.
Ah non, alors, Dominique.
Lucie, il paraît qu'on dit qu'une
c'est
tripe,
pas pareil.
Une tripe est bonne quand ça colle un peu les lèvres. On est d'accord, Eric, ou pas?
Oui, il faut. Mais oui, parce qu'en fait, il y a une histoire de gélatine que provoque la tripe et qui va permettre justement un petit peu. Si jamais tu en as un peu sur les doigts, effectivement, il faut vite aller se laver parce que ça pègue.
C'est ça. Alors là, on serait dans le côté, évidemment, cinquième quartier dont les Auvergnats sont, on va pas dire les spécialistes parce que partout en France on aime manger les bas morceaux, les produits tripiers, etc. Mais il est vrai qu'en Auvergne,
ils adorent ça.
Ils adorent ça. Donc ça, c'est la version évidemment auvergnate. Il y a ce côté justement, notre ami Eric Roux parlait de cette mixité, de cette créolité alimentaire, et il y a une création qu'en est un peu la preuve. Qu'est-ce que c'est ?
Vous avez de là, vous avez un banh mi, donc le sandwich vietnamien avec. Là, on a mis du tête de cochon, fromage de tête.
Oui.
Radis, carottes. Je ne rappelle pas comment on appelle ça, mais Monsieur Wang également qui.
Raoram.
Raoram. Voilà. Raoram, tu m'as fait goûter ça dans ton jardin. C'est une espèce, allez, pour faire très court, une espèce d'herbe aromatique très mentholée.
Très mentholée.
Et très utilisée dans l'ancienne cuisine indochinoise.
Voilà, exactement.
Et magnifique. Le banh mi, une baguette très française. Là aussi, on parle d'un jumelage qui est né évidemment là-bas. Avec des herbes, des carottes râpées un peu pickles, c'est ça?
Exactement. Il y a concombre en pickles. Le mot pickles, je me suis dit, ça doit venir de picoler, non?
faut demander à Dominique Hutin, il y a une réaction dans le public. Bonjour madame, vous vous appelez comment?
Bonjour, je m'appelle Marie.
Bonjour Marie.
Et donc je viens de goûter les tripes et je suis assez surprise parce qu'elles sont assez douces et c'est un goût que je n'ai pas l'habitude de percevoir quand je mange de la tripe d'habitude. D'habitude, c'est mon mari qui la relève et c'est beaucoup plus costaud
et ben vous
que celle-ci.
Non, mais il a hésité parce que normalement, il est capable de mettre du piment. Hein, Harry. C'est possible.
Il y a du piment là. Et là, l'andouillette de veau, il y a du poivre de Sichuan et piment dans le banh mi. Et ça, normalement...
C'est ça. Mais pour les tripes, Harry, en un mot, la recette est en ligne sur franceinter.fr à la page On va déguster. Les étapes, l'esprit de cette recette, son univers aromatique.
Il faut faire des grosses quantités parce que pour moi, quand j'achète des tripes, si vous voulez un bon prix, vous prenez une ventre entière avec les deux pieds ou même quatre pieds, ça dépend s'ils sont sympas ou pas à l'abattoir.
Vous allez directement à l'abattoir?
Oui, là on a des prix intéressants. Mmh. Également une demi-poitrine fumée, salée fumée, du bacon quoi.
Oui.
Des oignons je mets un peu de carvi qui est pas très auvergnat, mais j'avais une cliente suisse qui m'a conseillé ça et j'ai ajouté, j'ai adoré. Alors il y a du carvi et puis le ventre.
On parle bien de tripe bovine.
Oui, exactement. Normalement, j'essaie d'avoir cuit une tête de cochon la veille pour faire le fromage de tête qu'on mange dans la sandwich. Et le bouillon de ça, il va dans les tripes. Une bouteille ou deux de vin blanc, des tomates pelées, laurier.
Oui.
Paprika, t'as dit ?
Un peu de paprika fumée, je mets. Ou sinon, des fois un chorizo, c'est pas mal. C'est pareil, pas très auvergnat, mais bon, c'est pas auvergnat. et du laurier.
Ok, magnifique.
C'est intéressant ce que raconte Harry en décrivant sa recette, parce qu'on sent bien que c'est pas une recette qui est c'est pas un régiment d'ingrédients. Il a dit un truc qui est très important. Il dit, avant, je me suis arrangé pour faire une tête de cochon, donc il récupère le bouillon. Et ça, c'est typique de ce qu'on pourrait appeler la cuisine populaire, c'est-à-dire que je gère en fait de l'économie avant de gérer seulement de l'assiette. On peut pas se dire je vais acheter ça. C'est la saison qui guide, parce que c'est au meilleur prix, c'est la pratique de tous les jours. Et en fait, ce qui est très rigolo d'observer sur cet étonnant festin, c'est quand tout le monde, en fait, picore sur l'ensemble de ce paysage et crée en permanence quelque chose qui est en mouvement. Et je tiens beaucoup à cette notion de mouvement parce que elle est tellement à l'opposé des livres avec des très belles photos, des textes très bien rangés. C'est beaucoup plus foutraque et beaucoup plus rigolo.
On va continuer à brosser le portrait gourmand de Clermont-Ferrand avec Eric Roux, Harry Lester et évidemment...
Lucie,
mais bien sûr. Lucie Vaurillon, Yann, nos chroniqueurs, mais on se donne...
On va peut-être supprimer les boissons alcoolisées.
Non, ça va bien. Non, je suis encore en forme. On se met un petit coup d'un chanteur, bon, très local. C'est un peu la star locale qui vit à une trentaine de kilomètres de Clermont-Ferrand. Jean-Louis Murat, France Inter est amoureux de ce chanteur, évidemment. Je vous propose... Oh là là, ça applaudit carrément. Une chanson que personnellement j'aime beaucoup, extraite de son album Mustango, Au Mont Sans Souci. C'est situé près de la Bourboule. Il paraît que ça existe vraiment, ce mont, hein.
Exactement.
Eh bien, on écoute. Bon appétit sur France Inter.
Les enfants forment une ronde, les monos sont jolis. À l'issue est belle, tête blonde au terme de chaussis. Allez soigner à l'arsenic vos souffles affaiblis. Les récits doux dans la bruyère, au mont sans souci. Dieu les enfants aime la sieste d'eau tout étourdie. Les filles de Cannes débroussèlent pendant ce répit. Venez pour une heure à peine voir les gars du pays. Venez chanter dans la prière au mont sans souci. J'en pinçais pour une infirmière, une brune plutôt jolie. Je suivais comme David Croquette son large parapluie. Au cinévox, elle m'emmenait voir un guitare Johnny. Je n'avais qu'une idée en tête, le mont sans souci. J'aimais déjà dire je t'aime, je lui dis. Je savais que dans une semaine, elle serait loin d'ici. Tous ces amours de courte haleine embellissaient nos vies. D'un éclat mauve de bruyère, au mont sans souci. Les baisers, le doux manège, viens donc que je te suis. Sauras-tu tenir ta promesse et m'aimer cette nuit? Quand s'entrouvrait la lumière, les portes du paradis, j'aurais passé ma vie entière au mont sans souci. Herbe têtue, rouge calèche, toboggan rentré. Le temps est long qui nous ramène les filles avec l'été. Quand l'éclat mauve délétère n'éclaire plus ma vie, je vais dormir dans la bruyère au mont sans souci.
Comment va Clermont-Ferrand ? Est-ce que Clermont-Ferrand a faim ? Ça tombe bien, il y a plein de bonnes choses à déguster. Nous sommes au cœur du jardin Lecoq dans le centre-ville de Clermont-Ferrand avec nos amis Eric Roux, Harry Lester et Lucie Vorillon. Oui, qu'est-ce qui se passe ? Vous nous entendez pas ? Ah, bon, ça va beaucoup mieux. Lucie, vous êtes une jeune trentenaire super motivée, on peut le dire comme ça. Vous avez fondé il y a 5 ans une enseigne qui fait parler d'elle, là encore, à Saint-Florent et qui participe de ce renouveau qu'évoquait Eric Roux, c'est le marché de Max et Lucie. On n'oublie pas Maxime.
Oui, tout à fait, qui est resté sur le stand, le pauvre.
Oh, mais il est aussi en contact avec tous les gourmets de la ville et les visiteurs, évidemment. Expliquez-nous en un mot le principe de ce commerce.
En fait, le principe, c'était d'aller chercher des légumes dans un périmètre à peu près de 30 km.
Oui.
Et de les ramener sur Clermont et de les vendre aux citoyens de la ville. Voilà. C'était de créer le lien entre le producteur et le consommateur.
Alors, c'est parti du légume. Il y a des paniers légumes qui partent de chez vous. Et on vous a demandé, on vous a lancé un petit défi, celui de nous faire un peu votre panier gourmand idéal. Évidemment, il ne peut être exhaustif sur les trésors gastronomiques et paysans que l'on trouve dans la région. Mais il y a quelques produits qui circulent autour du plateau dont on va déguster. On va commencer avec un drôle de saucisson d'un affinage remarquable, absolument excellent, chair assez serré. Il y a un goût très ample, très volumineux, très long en bouche. Quelle salaison, non ? Vous êtes d'accord ?
Ah oui, c'est un travail remarquable que fait mon producteur, donc qui s'appelle Florent Tixier à Charbonnières-les-Varennes.
Oui.
Donc il faut savoir que ces porcs sont élevés sur la paille.
Ah, c'est pas beau, c'est pas du saucisson, c'est du saucisson de cochon.
De cochon, oui,
d'accord,
oui, tout à fait.
Pas du saucisson de bœuf, comme j'aurais pu penser.
Exactement, parce qu'il en fait également. Je vous ai amené le saucisson de porc qui est assez emblématique et qui, à la boutique, on a des retours formidables dessus. Donc, du coup,
qui est assez maigre au final, on a assez peu de
oui.
gras.
Exactement, il y a assez peu de gras. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces porcs sont nourris avec les céréales de la ferme. Donc du coup, on est vraiment sur un circuit en local 100%.
Très bien. Et on peut le trouver évidemment chez vous, vous le distribuez.
Oui, bien sûr.
Vous expédiez également en ligne, c'est bien ça ?
Oui, tout à fait. On fait des petits paniers qu'on livre un petit peu partout dans des points relais à Clermont. Voilà, on a commencé l'activité sur cette base parce que comme on était un petit peu jeune, pas très expérimenté, du coup, on s'est décidé, on est resté sage dans le sous-sol de la grand-mère à tester notre petite entreprise. Et petit à petit, on a augmenté, on a acheté une camionnette et puis maintenant, on a un local dans Clermont-Centre. Donc
ça marche bien. Ouais, les Clermontois sont au rendez-vous.
Exactement. Je sens que les gens sont vraiment... Il y a vraiment une bonne dynamique pour manger local et retrouver un sens dans sa façon de consommer.
Et pour que les gens de Clermont soient aussi au rendez-vous au stand des marchés de Max et Lucie, vous nous indiquez la localisation GPS dans le jardin Lecoq.
Oui, alors du coup, on a un petit stand où, comme on est au contact des légumes, on les a un petit peu transformés cette fois-ci et mis sous forme de salade. Et du coup, on est du côté du boulevard François Mitterrand.
Très bien. Eh bien, écoutez, allez leur rendre visite. Vous verrez, c'est des jeunes assez épatants. Madame, il y a une question dans le public. Vous vous appelez comment ?
Alors, je m'appelle Françoise. D'habitude, je suis en cuisine à cette heure-ci et je vous écoute depuis des années.
C'est une bonne nouvelle pour
Alors,
nous.
Alors, je n'avais pas de questions, mais j'ai goûté le saucisson de porc. Et effectivement, il n'est pas du tout gras en bouche et ça permet de conserver bien ce goût. Ça le rend beaucoup plus profond comme goût, comme saveur. Et il est très souple, il n'est pas dur, voilà. Très appréciable.
Ouais. Merci Florent Tixier, éleveur salaisonneur à Charbonnières-les-Varennes qui a de belles pratiques assez exemplaires, hein, tout à fait paysanne et fermière. Eh bien moi je propose un petit coup de rouge avec ça, qu'est-ce que vous en dites ?
Oui d'accord.
Où est Dominique Hutin ? Où est-il ? Ah il est là, bonne nouvelle !
Un petit coup de rouge.
On va déguster sur France Inter.
Dominique Hutin qui pour une fois a pris soin de remplir nos verres. Voilà,
oui,
un peu de générosité ne fait pas de mal Dominique.
Voilà, j'ai fait les niveaux. Écoutez, j'aurais évoqué le souffle nouveau des vins d'Auvergne et permettez-moi de commencer pour une fois par la fin. Intéressez-vous aux vins d'Auvergne, urgemment. Et je vais vous dire pourquoi. Simplement parce que l'Auvergne, dans ses frontières élargies, fait figure d'authentique nouvel Eldorado du vin. Et pour illustrer ce phénomène, alors, d'ordinaire j'ai un vin, là j'avoue que je croule derrière un panorama, j'ai du Bonjean, j'ai du persillé, j'ai du Désor, j'ai du Perche, j'ai du Montel, j'ai du Bouju. Bref, ce sont d'ailleurs des vins que j'ai volés tout à l'heure sur le stand des vins d'Auvergne qui sont un petit peu plus loin là-bas sur le parc. Et en fait, pourquoi je cite tous ces noms ? Parce que je ne voudrais pas qu'on s'attache spécialement à un nom. Si je porte cet éclairage aujourd'hui, si je me permets de parler d'Eldorado, c'est que simplement tout ça s'inscrit dans un... un mouvement collectif, quelque chose d'assez large. Donc je vais essayer de mettre en lumière un petit peu cet engouement nouveau, ce nouveau phénomène. Alors, la première chose à faire, peut-être, c'est définir ce qu'est l'Auvergne, quelle limite. Peut-être que vous connaissez ce panneau qui est assez marrant et qui dit « Ici s'arrête la France et commence l'Auvergne ». Alors, ce n'est pas seulement une manière singulière de souhaiter la bienvenue. Définir les limites de l'Auvergne, c'est aussi se risquer à lancer un petit peu un pugilat, comme si vous parliez de politique, ou comme si vous demandiez aux Auvergnats, au final, s'ils préféraient Clermont Foot ou l'ASM en matière de rugby. Alors, tout le monde sait très bien que les Auvergnats, finalement, ce qu'ils ont dans le cœur, c'est une saucisse au chou. On le savait. Voilà. Donc, je vais vous parler de cette Auvergne élargie.
Vous ne faites pas rire tout le monde. Hein. Il y a des têtes un peu qui font la grimace.
Et encore, il y a des rires enregistrés.
Les parigots, là, on va les manger tout cru.
Allez-y, ne vous priez.
Il y a du gras, c'est ça que vous voulez dire, Dominique? Ouais.
J'ai essayé de mener décemment, avec beaucoup de dignité, cette chronique jusqu'au bout. Donc, je vous parlais de l'Auvergne élargie, c'est-à-dire les côtes rouennaises, la côte du Forel, les côtes d'Auvergne, le Saint-Pourçain et même le Cantal. Les vignerons, eux, de toute façon, ils ont résolu le problème. Voilà. Ils ont décidé de jouer collectif. Ils ont vraiment créé, ils se sont en fait abrités sous des bannières un peu identitaires qui s'appellent Ici commence la Loire. Ou la Loire volcanique, par exemple, qui sont autant d'allusions, évidemment, à la géographie locale qui convoque les volcans. Volcans qui vont aller jusqu'à typer le caractère des vins. Par exemple, le Gamay aime le basaltique, le volcanique, etc., qui sont plutôt en haut des pentes, alors que les Chardonnay, les Pinot Noir, eux, vont se régaler plutôt des calcaires qui sont en bas des pentes. Cet Eldorado...
Des pentes ou des pentes?
Des pentes de vin.
Ah oui.
Des pentes des volcans et des pentes de vin, chef. Il y en a un qui écoute, c'est pas
non, on écoute, on écoute.
Alors, je me suis risqué tout à l'heure à lancer Eldorado du vin. Évidemment, c'est une assertion un petit peu téméraire. Et donc, pour l'asseoir, je vais avoir besoin de l'appui d'un grand témoin. En l'occurrence, c'est le maître S. Volcan, c'est Haroun Taziev, qui un jour m'avait confié la chose suivante. J'aurais voulu être onologue pour boire l'Auvergne de verre en verre, mais je suis devenu vulcanologue. Je scrute les entrailles de la terre.
Et pour une fois, il n'a pas chanté trop faux. Et en même temps, je commence à m'inquiéter. Il y a monsieur qui lève la main et reçoit une goutte de pluie. Je ne sais pas ce que ça veut dire.
Ne m'encouragez pas trop. Enfin, je suis le parolier de Murat, mais bon, ça va. On en parlera une autre fois. Donc, la proposition qui nous est faite, pour parler sérieusement, c'est de se repaître du sang des volcans. Et comme le temps imparti ne va pas me permettre d'épuiser tout à fait cette question, ni mettre à sec les rivières de Gamay qui coulent ici, j'ai dégusté pour vous 120 que vous trouverez sur notre site à France Inter, la page « On va déguster ». Vous allez trouver les commentaires, les prix, les coordonnées. Et donc, ce carnet de vignes est à télécharger, pour lequel je ne vais pas vous demander 100 euros, je ne vais pas vous demander 50 euros, ni deux, c'est gratuit, service public. Oblige.
Bravo.
Alors,
travail. Non, attendez, faut le dire. Hein. Travail de défrichage incroyable de Dominique Hutin. Une sélection de 100 cuvées quand
100
même.
100 cuvées.
Régionales.
Beaucoup de rouges, uniquement régionales, donc avec les appellations
toutes goûtées
que j'ai citées tout à l'heure. Pardon ?
Toutes goûtées ?
Toutes goûtées à la Vogue. Et surtout, vous allez avoir des surprises tout à fait formidables. Et Nadia qui m'invite à manger des choses. Je ne vais pas faire ma chronique.
Non, mais Dominique, tu sais ce que c'est ?
Éric Roux.
C'est une saucisse au chou. Donc, s'il te plaît, tu la manges entièrement.
Ouais.
J'ai un gage.
Ah, il va y aller à fond les manettes. Et elle est belle, cette saucisse au chou. Avec des reflets un peu verdâtres qui trahissent justement la présence d'herbes fraîches.
C'est Éric Durif, boucher à Clermont-Ferrand, qui l'a fait, bien évidemment. On achète ça tout l'hiver.
Je fais le serment, lui faire honneur, voilà, je la mangerai tout à l'heure. Alors quand même, juste pour revenir à notre histoire d'Eldorado, que je vous donne quand même la solution des jeux. Il faut dire que quand même, tout avait mal commencé, puisqu'un vigneron m'avait confié, ici, on héritait de la vigne comme de la vérole. Donc vous voyez, on partait de loin, mine de rien. Donc c'était simplement le survivance de vignes familiales, qui était un peu synonyme d'économie bancale. Voilà. Et oui, il y a eu un basculement. Techniquement d'abord, il y a eu un premier appel d'air il y a une quinzaine d'années à peu près, avec une frange de vignerons libres qui sont venus s'installer ici. Bah, il faut le dire, parce que les terres n'étaient pas très chères. Ça s'appelle Bouju, ça s'appelle Majonne, ça s'appelle Maupertuis, ça s'appelle Gonan. Et tous ces gens-là, eh bien, ils ont navigué au large des institutions. Ils ont créé des vins qui n'avaient pas d'appellation, qui étaient des vins de table. Et ces jeunes gens se sont ébroués avec une économie de moyens qui a forcé, un, l'admiration, puis aussi quand même l'incompréhension chez ceux qui étaient un peu nourris par les dogmes œnologiques. Donc eux, ils ont travaillé sans intrants, par exemple les fameux pesticides de synthèse dont on nous parle beaucoup en ce moment. Bref, une espèce de laisser-faire qui a accouché de petits miracles. Et surtout, ces gens-là, ils ont fait voyager le mot Auvergne. ces gens-là ont fait qu'un vignoble de 20 boissons, espèce de carburant de bas étage, est devenu un frisson viticole qui agite les verres de Clermont-Ferrand à Paris, à New York et à Tokyo. Donc que grâce leur soit rendue. Et puis techniquement, tout le vignoble a progressé. On a vu apparaître chez les autres, ce qu'on appelle d'ordinaire les conventionnels, des vins d'auteur. Et pour résumer la chose, on est passé donc d'un vignoble de quantité à un vignoble de qualité. Et j'avoue que dans les 100 euros, j'ai eu beaucoup de mal à sortir des bouteilles. Et surtout, la vraie surprise, c'est que vous allez trouver des bombes tout à fait fantastiques à partir de 7, 8, 9, 10 euros. Et donc, ma sélection, elle s'étale de 5 à 36 euros.
Qui colle bien à la vocation populaire de notre événement.
Exactement. Et la dernière chose, c'est le Gamay. Ce Gamay qui est un formidable vin de table, un vin pour la table, un vin pour toutes les tables, simplement parce qu'il est botanique, peu alcoolisé, c'est un vin droit, il est fruité, il est pur, beaucoup de finesse. Et le dernier trésor, enfin, ce sont les humains, vous l'avez compris, un renouvellement de génération tout à fait épatant. Bref, on a le sentiment que l'Auvergne a rendez-vous avec l'époque, et ça je vous aurais averti, il faut goûter les vins d'Auvergne. Dernière chose, l'actualité, deux livres, vin d'Auvergne, L'encre n'est pas sèche, il sort la semaine prochaine, voilà, on le mettra sur le site.
Vin d'Auvergne et du Massif Central, voilà. Avec une préface d'Olivier Poussier aux éditions Flandonnière.
De Pierre Désert qui tient l'ambassade d'Auvergne à Paris. Et puis entre les vignes spéciales Auvergne, que vous trouverez aussi sur d'autres sites. Et puisque c'est la période des foires au vin, l'ambassade d'Auvergne fait une foire au vin avec 50 vins auvergnats. Et ça, c'est pour les Parigots qui riment avec Aligo.
Wow, bravo Dominique, voilà. Merci. Éric Roux, vous aviez une précision à ajouter sur les vins d'Auvergne ?
Juste, non, mais c'est en fait, moi, il y a un truc qui me frappe toujours. Quand tu fais goûter un vin d'Auvergne à un Auvergnat, sa réaction, c'est pas mal pour un vin d'Auvergne. Et en fait, le combat, il est juste là. Arrêtez de dire ça. Dites que c'est l'un bon vin.
Être prophète en son pays.
Auvergnat, soyez chauvin. On est d'accord, hein, Clermont-Ferrand ? Dans un instant, plein d'autres choses. On va continuer, on va s'intéresser au cas de Harry Lester qui, vous allez le voir, goûte aussi cette mixité alimentaire dans les marchés de Clermont-Ferrand. On va également parler d'autres produits du terroir avec Lucie Vorillon. On va évoquer, bien entendu, une héroïne de la cuisine auvergnate avec Estherelle Pagani dans un instant qui joue un peu, non pas de la poche à douille, mais qui a fait de la chantilly.
Voilà,
petit indice. Allez, on fait une pause avec Anderson .Paak et Nate Dogg. C'était l'une des plus belles voix du rap américain. What can we do? Bon appétit à Clermont-Ferrand.
Girl up and gone,
she'll be back in the morning.
Go to mama, take your trauma.
Seems like I can't live without her.
I ain't getting more,
cause my heart is broke,
cause my love went wrong.
Yeah, another bag and she left me in the mold. Water bubble over stove. As I was dreaming of a bag, and I woke, it was starting to snow.
Oh, yeah.
And in the bed full of cash, you slowly rolled over and whispered back to me. That's just the way things have to be.
What can we do? 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 What can we do
Quel monde devant le studio de France Bleu et France Inter. Merci d'être là, chers amis. Toute première édition de l'étonnant festin dont Éric Roux nous redonne une brève définition.
L'étonnant festin, c'est Clermont qui se donne à goûter lui-même. On mange le ventre de Clermont-Ferrand en rencontrant tous les gens qui font aujourd'hui Clermont-Ferrand, ceux qui ont des casquettes de chef étoilé et ceux qui font dans le petit bistrot ou l'association les Chinois, les Japonais, les Portugais, les Turcs, les Arméniens. J'ai fait exprès de les mettre les uns à côté de l'autre.
Mixité sociale, mixité culturelle, mixité démographique, et ça c'est lié évidemment à aussi l'histoire industrielle de Clermont-Ferrand, et le résultat c'est une melting pot assez formidable dans lequel beaucoup, alors je sais pas le mot communauté, il est évidemment connoté, mais les peuples venus d'un peu partout ont mis leur grain de sel, voilà.
Oui, parce que quand tu rencontres Maria qui a le magasin au Bacaya ou rue de la Boucherie, elle te dit je suis auvergnate. Bon, je suis un peu portugaise, mais je suis auvergnate.
C'est ça.
Et c'est un truc qui est très étrange parce que c'est pas dans l'effet d'annonce, c'est juste je me sens bien ici et je veux rester ici. Tu sais, il y a une chose très simple, François, c'est faut faire le tour des marchés à Clermont.
Ben justement.
Saint-Jacques, Saint-Joseph, Montferrand, Gerza, Aubière, La Glacière.
En venant à pied, Eric, de notre hôtel, on a passé une tête dans un marché, je ne me souviens plus de son nom.
Les Salins.
Les Salins devant la Gare.
T'avais une montagne de persil et de menthe.
Oui, bien sûr.
Et la coriandre, et puis il y avait des poselèmes aussi.
L'étal du poissonnier.
Incroyable, avec des chinchards, des poissons bleus, des sardines.
Les chinchards, c'est vrai que dans la culture gastronomique française, entre guillemets, le chinchard, c'est un peu le poisson laissé pour compte.
On va dire
pour faire court que c'est un cousin du maquereau.
Oui.
Ah, clairement, il a du succès, il y a une raison précise.
Ben oui, tout simplement, c'est les Portugais qui nous ont appris à manger le chinchard. Il y a une histoire à savoir sur les Portugais et les Auvergnats. Il y a le poisson emblématique, en fait, des Portugais et des Auvergnats, c'est do bacalhau, la morue. Et moi, je me souviens, sur le foirail de Montferrand, il y avait une baston comme ça entre un Auvergnat et un Portugais qui tenait des bistrots chacun en France de l'autre. Le vendredi, c'était baston de morue. Alors les deux, tu vas dire, tu fais comment ta morue ? Ah ben c'est simple, hein, c'est patate, oignon, ail, morue. Et l'autre, tu demandais, elle est différente la tienne ? Ah oui, patate, oignon, ail, morue. C'est ça en fait.
C'est ça. C'est incroyable.
C'est une histoire extraordinaire. Et ces marchés, ils sont très particuliers et vraiment une réelle respiration de la culture populaire clermontoise, c'est que nous avons encore la chance d'avoir des marchands au panier. C'est-à-dire que la tradition ouvrière, chacun avait son jardin, et quand il y avait un surplus de production, j'ai le droit de le vendre sur les marchés. Il faut faire le tour de tous les marchés, parce que tu peux picorer comme ça. Juste en face de nous, il y a Roland. Roland, c'est un marchand au panier. Alors là, aujourd'hui, il est devenu fou. Hein. Il a rassemblé, à mon avis, tous les jardins qui sont autour de lui. Et c'est magnifique parce que tu peux trouver à la fois le reflet culturel de l'origine de chaque personne et leur volonté. Tu sais, les histoires de écolo, pas d'intrants, c'est un discours qu'ils ont en permanence, mais pas de manière militante. Parce que on revient comme à la cuisine, c'est comment je vais pouvoir faire pour être dans cette dynamique-là, parce que j'y crois et que c'est quelque chose d'important. Donc c'est des petits changements, tout doucement. C'est pas du gros militantisme où on roule les mécaniques. C'est juste, je trouve des solutions pratiques au jour le jour pour cultiver et pour faire la cuisine.
Au départ, c'était des jardins familiaux, des jardins ouvriers avec un réflexe strictement vivrier.
Totalement vivrier. Tu sais, à Clermont, il y a une ligne de bus. Il y a marqué en gros dessus les ors. En occitan, l'orte, c'est le jardin. Et tout simplement, ça désigne un endroit où il y avait plein de jardins. Je vous recommande, il y a des balades à faire aujourd'hui dans le cadre d'effervescence, dans la vallée de l'Artière. C'est-à-dire que vous chargez une appli et vous traversez tous les jardins qui sont au bord de l'Artière et vous découvrez en fait cet univers qui est un Clermont qui bascule en permanence entre campagne et ville, entre ville et campagne. On ne sait pas trop où on est, mais c'est ça, Clermont.
Je crois savoir, Harry Lester, que c'est cette mixité maraîchère que l'on trouve sur tous les marchés que vous arpentez pour nourrir la cuisine du Saint-Eutrope, votre fameux bistrot, parce que les Clermontois en sont vraiment amoureux. C'est cette mixité qui vous fait apprécier aussi Clermont-Ferrand et qui fait que vous y restez, vous y enracinez.
Oui, non, mais c'est sûr. Et récemment, j'ai découvert le marché de Montferrand qui m'a. Bah, ça a apporté. C'est pour ça que j'ai fait les banh mi aujourd'hui, par exemple. C'était les légumes que je ne connaissais même pas. Il y a pas mal de légumes, des herbes. J'ai oublié le nom déjà de cette herbe.
Programme.
Et bah, je pourrais cuisiner. C'est toujours intéressant de cuisiner avec des trucs qu'on ne connaît pas. Bon, pour moi, j'adore ça. Il y avait même des espèces de petits navets, je crois qu'ils s'appellent ça une poire de terre.
Poire de terre, exactement. Famille du haricot, mais on ne mange pas les haricots, on mange en fait la racine.
Mm-hmm. Voilà.
Et quand je vous ai appelé, vous étiez en train d'écrire votre ardoise justement au Saint-Eutrope pour préparer un petit peu cette émission. Vous m'avez cité quelques plats qui font très envie, qui correspondent à cette vision assez, populaire d'une cuisine simple, nourricière. Soupe à la courge et aux noisettes, poireaux sauce gribiche, gigot d'agneau et gratin dauphinois. Vous avez même travaillé un peu ce que vous appelez et que vous avez trouvé justement sur un des marchés, les chime di rapa, qui est typiquement ce légume de la cucina povera du sud de l'Italie. Mais ah oui, il lève la main, Eric Roux.
Ça ressemble à chime di rapa, mais c'est nabisa. Nabisa, c'est portugais. Et c'est un navet en fait.
Ce sont des pousses de navet.
C'est du ver de navet.
C'est ce qu'on met dans le caldo verde.
Non, c'est le chou. Là, c'est grelos.
C'est un chou ici, hein, ça rigole pas.
Et on les fait sauter finalement, comment vous les faites sauter, un peu comme des épinards?
Un peu, oui, il faut qu'il y ait un peu plus. Mais par contre, il n'y a pas de navet. Le navet est tout petit, c'est poussé pour les feuilles. Hein.
Voilà, pour les feuilles. Et ça donne effectivement ces espèces de tombées de légumes verts qu'on apprécie beaucoup et qui peuvent accompagner une viande, un poisson, qui peuvent se manger tout simplement comme ça, bien entendu. Du porc?
À vous. Du gras.
Du gras, ouais. Bon, on est en Auvergne, il faut quand même le rappeler.
J'adore quand il parle de gras, Harry, il est top.
Lucie Vaurion, confiez-nous un nouveau coup de cœur que vous avez sourcé avec votre associé Maxime. Allez.
Alors, il y a le choix, on a du Cantal ou...
Bah Cantal... Bien sûr.
Des petites carottes.
Oui.
Si vous voulez un peu de légumes pour changer
alors,
du gras.
Légumes.
Alors là, c'est une petite carotte de Christophe Bovio, donc qui vient d'Entraigues, toujours dans un petit périmètre de 30 km et qui travaille avec les valeurs de l'agriculture paysanne. Voilà, si vous connaissez un petit peu.
Alors, il était en conventionnel, paraît-il.
Voilà, exactement.
Il a fait le chemin.
Ce qui est très intéressant sur Christophe, c'est que c'est un profil qui vient du conventionnel. Et en fait, la condition pour qu'il reprenne la ferme, c'était qu'il soit en agriculture paysanne. Donc, c'est intéressant de voir comme il découvre au quotidien des pratiques, comment retravailler la terre de façon totalement différente, sans intrants chimiques, sans etc. Donc, et sur des valeurs effectivement beaucoup plus humaines et sur une distribution en circuit court. Donc c'est vraiment c'est intéressant de voir cette transition qui s'opère sur nos territoires agricoles.
Et quel assaisonnement?
Ah oui, ça c'est nous.
Aigre doux?
Non.
C'est très frais.
Enfin, aigre doux, si,
en
un
fait,
peu quand même.
On fait revenir l'échalote, qui est aussi l'échalote de Christophe, on fait revenir l'échalote avec de la pâte à curry.
Un mot sur la culture maraîchère de Clermont-Ferrand. Ça a été l'une des plateformes en France des légumes et des fruits, d'ailleurs, hein, grosse tradition arboricole, évidemment. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, il y a une nouvelle génération qui remet justement une biodiversité à l'honneur dans ces champs, mais il faut bien reconnaître que la région a quand même souffert en termes de maraîchage et d'arboriculture.
Tout à fait, énormément. Là, on voit vraiment sur le territoire le changement climatique, à savoir on a eu une sécheresse sur 4 saisons, ce qui est assez catastrophique. Qui n'est pas habituel et du coup on perd du maraîchage, on a perdu historiquement, on a perdu aussi du territoire agricole, donc c'est un vrai drame parce que si on veut arriver à une autonomie en termes de distribution en local, on n'y arrivera pas du tout. Donc je pense que l'enjeu maintenant c'est de valoriser le travail effectivement et puis ensuite de passer la vitesse supérieure en trouvant des solutions, peut-être en investissant dans de l'innovation, de l'irrigation. Nous, c'est notre problématique sur le territoire, c'est du coup l'irrigation. Voilà, je pense qu'il y a des nouveaux enjeux à prendre en compte et j'espère que ça va être
Et vous très confirmez
rapide.
Qu'il y a de nouvelles forces vives qui remontent les manches et qui changent de modèle agricole.
Lentement, mais sûrement.
Éric Roux.
On oublie trop facilement ce qu'est un pays. Clermont-Ferrand et le Puy-de-Dôme étaient le deuxième producteur de pommes jusque dans les années 50. Le fruit le plus célèbre de Clermont-Ferrand, c'est l'abricot. Tout le monde a oublié ça avec des variétés qui étaient particulières comme le blanc d'Auvergne. Je fais le tour comme ça en regardant dans le public qui est nombreux. Je regarde s'il y a des élus. Levez le doigt les élus.
On va dire gentiment qu'ils sont derrière leur poste de radio.
Je fais de la provoque. Non, je fais de la provoque parce que je les ai vus tout à l'heure. Juste, c'est une chose à prendre en compte. Aujourd'hui, pour être autosuffisant à plus de 50% sur le Grand Clermont et sur le parc du Livre-la-Forez, il faut créer 4000 hectares de maraîchage. C'est pas une paille, mais c'est possible en travaillant tout doucement. Alors, c'est bien de faire plein de choses, mais prendre en compte cette notion de production pour nous nourrir et pour mettre en valeur toute cette... un producteur qui s'installe et qui pioche dans toutes les variétés qui sont présentes aujourd'hui ou sur les marchés qu'on a cités avec Harry, mais c'est le roi du pétrole. Il crée un truc qui n'existe nulle part ailleurs en France. C'est juste ça.
Il y a une demande en plus des consommateurs qui deviennent de plus en plus des consommateurs.
Ouais, juste un détail, Lucie a parlé de la carotte. Il faut savoir que l'un des légumes qui était le plus célèbre et le plus coté au niveau de la France, qui venait d'Auvergne, c'était les carottes de Limagne. Parce que le sol est riche, le sol est profond, et on avait des magnifiques carottes. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de gars qui produisent en quantité cette carotte. C'est pas très compliqué. On voit des cultures disparaître ou mal adaptées aux nouvelles conditions. Peut-être qu'il y a des choses à remettre au goût du jour.
L'agriculture productiviste a fait des dégâts dans la région, comme partout ailleurs d'ailleurs en France. Mais il y a de l'espoir. Il y a une réaction dans le public. Bonjour, vous appelez comment ?
Je m'appelle Anna.
Bonjour Anna.
Bonjour. J'ai goûté les falafels et l'aligot du coup. Voilà.
Ah,
j'avais faim.
C'est pas mal ça, falafel aligot. Moi je dis bravo. Hein.
Falafel aligot, extraordinaire. Alors, la définition, tiens, on va voir. La définition d'un falafel sans vouloir vous piéger, Anna.
Ah, j'en ai aucune idée.
C'est, on va dire, une boulette de légumineuse. Alors, oui. Je pense que c'est pois chiches, là.
Pois chiches, un peu de fèves.
Un peu de fèves. Tout ça est frit.
Tout ça est frit, empaqueté comme ça, et c'est juste formidable.
Et c'est une source de protéines extraordinaire, ah, oui. Avec des herbes fraîches, etc. Vous avez aimé ou pas ?
Oui, c'était pas trop sec, c'était très très bon. Mais par contre, l'aligot, ça m'a surprise parce que la forme, c'était sous forme de deux bâtonnets. Et c'est vrai que j'avais pas l'impression de manger l'aligot, mais c'était très bon. Et la sauce par-dessus était plutôt forte, a bien couvert le plat. Je serais curieuse de savoir la recette d'ailleurs de la sauce qui va avec.
Il faut que vous alliez voir Fred Coursol, qui est juste à côté de la porte là, qui donne sur la fac.
Là, on évoque un grand chef en tablier.
Ah ouais, qui est juste. Vous allez le voir de ma part. Et vous le prenez par le callback, comme ça, recette.
Ok, ça va marcher. D'accord.
Dominique Hutin, vous en pensez quoi de cet aligot en bâtonnet ?
Bah oui, c'est une manière nouvelle de le consommer. Par exemple, on peut le manger dans la rue, ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde.
Mais voilà.
Moi, je me concentre sur la saucisse au chou parce que je sais que si je veux sortir vivant d'ici.
Tu l'as fini ?
Je l'ai fini. Oui.
Fini ton assiette.
L'aligot version street food, comme on dit évidemment en bon français. On évoque un destin culinaire au féminin avec Estherelle Payani.
On va déguster sur France Inter.
On vous sait passionné, Estherelle, par les cuisinières évidemment. C'est votre combat, peut-on le dire, votre moto. Les femmes bien sûr, pas le piano de cuisine, hein, ça c'est bon. Et dès que vous avez su que nous allions nous attabler à Clermont-Ferrand, vous n'avez eu qu'un mot.
Margaridou.
Alors, ça dit quelque chose ou pas ? D'ailleurs, on n'a pas demandé la solution, mais vous l'aviez dans le public ?
Oui.
Alors, qui connaît Margaridou ? On lève la main. Ah non, bop.
Ah, on arrive.
Ah, on est tellement contente d'apprendre des choses au Clermontois.
Bon, alors, Margaridou, c'est quand même un drôle de prénom, hein, parce que la première fois que je l'ai entendu, c'était dans la bouche de Régis Marcon. Régis Marcon, le chef étoilé de Saint-Bonnet-le-Froid, qui m'a raconté qu'il avait servi en garniture du plat avec lequel il avait gagné le Bocuse d'or en 1995. Il avait mis des brochettes de riz de veau et de morille. Et ces brochettes, elles n'étaient pas sorties de son imagination, mais elles lui avaient été inspirées par un ouvrage qui était épuisé à l'époque, consulté à la bibliothèque du Puy. Et ce livre, donc, c'est Margaridou, journal et recettes d'une cuisinière au pays d'Auvergne, qui était paru pour la première fois en 1935. Alors, c'est quand même un drôle de livre, assez épais. Ne le cherchez pas, il est épuisé, vous le trouverez uniquement chez les bouquinistes. Couleur jardin, on va dire. Voilà. C'est à la fois un journal intime, un roman et un livre de cuisine du pays qui suit les quatre saisons. L'héroïne, c'est donc la cuisinière d'un médecin de Saint-Flour qui, à la fin de sa carrière, aurait donné à Suzanne Robaglia, l'autrice, son cahier de recettes journal intime où elle a aussi consigné les recettes de sa grand-mère. En fait, c'est un procédé littéraire de Suzanne Robaglia qui avait déjà eu un gros succès à l'époque avec Rabouniel, berger d'Auvergne. Et ça, Margaridou, en fait, elle n'a jamais existé. Elle l'a inventé de toutes pièces, après avoir recueilli des recettes en faisant le tour des fermes alentour à vélo. Les recettes, en gros, c'est choux, tripoux, pescajou, deviennent presque des épopées tellement elle les raconte, avec moult détails, mais pas dans les proportions, les détails. C'est surtout quelque chose qui la gêne d'écrire les recettes, puisqu'elle dit « la cuisine, ça se parle pas, ça se trafique ». Alors on va découvrir la truite sous la neige.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Il n'y a pas de poisson dedans en fait, c'est une crêpe à la purée de marron recouverte de meringue.
La truite sous la neige ! La truite sous la neige, elle avait de l'imagination.
Les corbeaux au nid. Bon alors par contre c'est des vrais corbeaux.
Grand classique, grand classique.
Mijotés pendant 2 heures, sinon ça doit être un peu du rail. Servi avec du riz façonné en forme de nid. Mais il y a aussi la recette des chardons des rochers qu'elle prépare comme des artichauts.
Cardabelle, c'est un truc formidable ça. Ça on n'a plus le droit de le ramasser.
Alors pour Margaridou, quand elle écrit les recettes de Maury, Maury c'est le surnom de sa mémé, qui l'a élevée, elle dit « Attention, je vais risquer de les abîmer ». C'était des recettes parlées avec des images de vie qu'il faut connaître pour les comprendre. Ces recettes, c'était presque des contes de fées. Alors Éric Roux, justement, ce livre pour vous, il est très important dans ce qu'il dit sur la cuisine auvergnate. Vous m'avez un peu expliqué en détail sa richesse.
Une raison très simple. L'Étonnant Festin, c'est de la diversité. Margaridou, elle met le doigt sur la diversité auvergnate. Quand on est d'Aurillac, on est auvergnat, mais on n'est pas de Saint-Flour. Quand on est de Saint-Flour, on est auvergnat, mais on n'est pas de Brioude. Quand on est de Brioude, on est auvergnat, mais on n'est pas de Clermont. Mais tout ça, entre la plaine, la montagne, les pays coupés, là les ruisseaux, là où il y a des lacs, ça fait l'Auvergne avec une immense diversité.
Et l'Auvergne est un grand pays, au-delà, bien au-delà évidemment, de ses frontières administratives.
Donc entre l'Est et l'Ouest du volcan, la montagne, la mer, on est à travers tout ça. Et ce livre, finalement, a été réédité dans les années 60. Et bizarrement, on a cru bon de lui adjoindre les remarques et les commentaires de grands chefs, en l'occurrence les frères Troisgros en marge des recettes. Alors, j'ai rien personnellement contre eux, hein, mais le procédé systématique de faire valider, certifier la cuisine du quotidien, autrement dit celle des femmes et des cuisinières, par des grands chefs à toque branche, bah, ça n'a pas franchement aidé à ce qu'on les considère comme les égales des chefs.
Elle a raison, hein, franchement. Ah oui, elle a raison. Il faut ça, la caution d'un grand chef étoilé. Bon.
Pour avoir l'air un peu crédible. Parce que quand même, le plus important dans ces livres de recettes un peu désuètes, c'est la philosophie de Margaridou, qui est vraiment applicable aujourd'hui. Sa grand-mère déclare « Les marchands brouillent les saisons qui ne sont pas assez embrouillées toutes seules. Les gens ne songent plus qu'à courir, les estomacs ne veulent plus digérer. » Bah, on penserait qu'elle vit en 2019. Elle dit qu'elle pratique le beau métier qui entretient la vie en honneur. C'est quand même pas la plus belle définition du métier de cuisinier, ça ?
Ouais.
Alors, au lieu des grammes et des techniques, moi, ce que je vais garder de Margaridou, c'est des conseils poétiques. Récolter soi-même ses herbes aromatiques, préparer ses condiments après les avoir cherchés dans le jardin, les haies et les bois, double le plaisir de les employer. Ou surtout, pensez à la chose que vous allez préparer. Imaginez le chou-fleur dans sa beauté du jardin. Vous ne pourrez plus jamais le laisser brûler.
Quoique, le chou-fleur brûlé à la levantine, c'est pas mal aussi.
Ça a son charme aussi. Alors, dans les recettes de Margaridou, j'ai pas trouvé de corbeau, mais à la place, j'ai pris la recette des cornets de Murat.
Ah, Murat.
Murat, alors pas Jean-Louis. Attention, précision géographique. Murat, c'est un village du Cantal, alors
un
que
village,
Jean-Louis...
Une jolie petite ville, hein.
Jean-Louis Murat, malgré les apparences, lui, c'est sa famille qui était originaire de Murat-le-Caire, dans le Puy-de-Dôme.
C'est ça.
Attention, hein.
À 30 km d'ici.
À Murat, on fait des tuiles qu'on roule en cornet. Ça ressemble à la trompe portée à la ceinture par les pâtres et aussi avec lequel on donnait le sel aux vaches. Donc on va jouer du cornet. Cette spécialité, elle avait un peu disparu. Puis à 15 ans, ils sont mis à faire une fête du cornet, qui a eu lieu le week-end dernier d'ailleurs. Et là, ils sont amusés à les garnir avec plein de choses. La garniture traditionnelle, c'est la chantilly. Mais maintenant, on l'a aussi garni avec du tiramisu, de la mousse au chocolat ou
et
du houmous.
Ouais.
Alors, la street food auvergnate, c'est aussi dans les cornets de Murat. Moi, je les ai faits pour la première fois de ma vie à Paris. Je les ai transportés.
Transportés, le cornet a été transporté. C'est un appareil à tuiles.
Alors, c'est en fait la même quantité de tout, d'œufs, de farine et de sucre. Donc, vous pesez vos œufs et après, vous en faites autant que vous voulez. Quand même, la première fois, prévoyez-en plus parce que vous allez les rater. Donc voilà, c'était douloureux pour moi. Vous étalez, vous faites cuire 5-6 minutes et vous roulez dès que c'est chaud à la sortie du four pour former un cornet.
Cornet de glace et ensuite on garnit ça évidemment d'une belle crème chantilly maison. Qu'est-ce que vous en pensez, Lucie ?
C'est très 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 bon. Ouais. Moi, en tant qu'auvergnate, je rajouterais un petit peu de myrtille, mais...
de la myrtille dans le jardin, quelqu'un ? C'est pour une urgence.
Bah, merci beaucoup. J'ai une très mauvaise nouvelle, Eric.
Quoi, Chaba ?
Bah, c'est passé très vite, on va devoir se quitter. Dernier petit mot, s'il fallait dire une dernière chose sur cet événement qui se déroule jusqu'à 18h aujourd'hui. Hein.
Oui, faut picourer, faut se balader, parce que bon, il y a bien sûr les échoppes de cuisine, mais il y a la musique, il y a le piano qui flotte juste derrière, il y a des conférences, juste... Faut goûter ça, une pompo, la pompe aux pommes, c'est juste là, c'est fait par Hervé Durif, faut se jeter dessus.
Eh bien on va y aller, on va faire la fête juste après cette émission, merci à tous, les bons plans, d'ailleurs les producteurs de Lucie, tout est sur franceinter.fr à la page On va déguster, mais également la recette de Trip, d'Harry, Lester, merci à la ville de Clermont-Ferrand, à la métropole Clermont-Ferrand-Auvergne, merci à Effervescence, merci à vous cher public. La semaine prochaine, retour dans nos studios, car On va déguster vous propose une leçon de cuisine, de pâtisserie naturelle. Ça va être filmé pour la première fois. Vous pourrez regarder évidemment l'émission en direct et sur franceinter.fr à la page On va déguster. Merci à Laurent Thomas qui était à la console en direct. Robin Lalo et aux équipes de France Bleu Auvergne. Merci à Nadia Chougui pour la préparation, Djoubaka pour la programmation musicale. À dimanche prochain. Si vous avez encore faim,